La Première Podcast.
Un jour dans l'histoire. Laurent de Hausset.
Nous sommes au milieu du XVIe siècle, la guerre de Cent Ans qui oppose la dynastie des Plantagenets à celle des Valois et qui déchire donc les royaumes de France et d'Angleterre tire à sa fin. Certaines régions, comme les Pays-Bas, situées à l'écart du conflit, connaissent une certaine prospérité économique. En Hainaut, dans le comté de Flandre, dans la principauté de Liège, dans le duché de Luxembourg et de Brabant, les manufactures, notamment de textiles, se développent. Cette situation favorable va contribuer à l'épanouissement des arts et faire de cette partie de l'Europe l'un des principaux centre culturel, particulièrement en matière de musique. Les compositeurs, les chanteurs voyagent sur tout le continent, étant parfois les enjeux d'un très grand prestige diplomatique. Certains sont devenus de véritables stars. Ce fut le cas de Roland de Lassus.
Lassus, le prince des musiciens, le Montois, on doit en être fier.
Voilà, Lionel Meunier, ici directeur artistique de l'ensemble belge Vox Luminis, qui évoquait donc Roland de Lassus. Et pour aller plus loin avec nous aujourd'hui, Marie-Alexis Collin. Bonjour Marie-Alexis Collin.
Bonjour Laurent.
Vous êtes professeur au Centre de Recherche de Musique, Cinéma et Arts de la Scène, Moussia, qui dépend de l'ULB, hein, c'est ça. Et vous avez participé à la réalisation du Cubiculum Musica Lassus, qu'on peut voir en ce moment à Mons 2015. C'est une expérience que vous proposez, une expérience musicale, 6 siècles après, 5 siècles après.
Voilà, exactement. C'est une expérience, une double expérience, une expérience à la fois sonore et visuelle. Dans ce cube, en fait, on découvre une pièce, une des dernières pièces de Roland de Lassus, un éloge magnifique à la musique, quelque part un retour aux sources, hein, puisque là, on y parle de la musique qui va charmer les hommes, qui va charmer les dieux, qui a des pouvoirs thérapeutiques, qui est capable également d'émouvoir les pierres et les animaux. Et puis, en contrepoint, je dirais, de cette pièce musicale, on a le magnifique tableau de Bruegel et Rubens, Louis, qui vient finalement commenter, compléter cette pièce de ouais. Lassus. Et en complément, si je puis juste me permettre, en complément de cette expérience où là, vraiment, le spectateur doit se laisser porter par la musique et par le tableau, on a une application disponible gratuitement pour Android.
Voilà, et sur Google Play.
Sur Google Play, qui explique un peu le compositeur, l'œuvre picturale et l'œuvre musicale.
Alors, on va expliquer effectivement le parcours de Roland de Lassus, qui va nous permettre de comprendre ce que représentait le Hainaut à cette époque-là, en matière de musique notamment. Roland de Lassus est né à Mons en 1532. Il meurt à Munich 62 ans plus tard, le 14 juin 1594. Alors, est-ce que c'est un milieu familial qu'il prédispose à la musique?
Alors ça, on ne le sait pas. Mmh. Hein. On a la chance d'avoir beaucoup d'informations sur la vie de Roland de Lassus, puisqu'il était tellement célèbre finalement qu'on lui consacre une biographie de son vivant, ouais. Et qu'il raconte un peu son parcours. Mais il ne dit pas que ses parents étaient musiciens. J'imagine que s'il l'avait été, il l'aurait mentionné. Mais simplement, lui, très jeune, il rentre dans une maîtrise. Ses maîtrises, ce sont ses écoles de chant, où on apprend et le chant et la grammaire, enfin donc le latin, une double formation qui peut aider, même si on continue pas dans la musique. Et puis ensuite, voilà, il est engagé quelques années plus tard par quelqu'un de passage.
Ces écoles, ces maîtrises sont des niveaux très très élevés. Hein.
Ça peut atteindre des niveaux très très élevés, et c'est le cas dans le Hainaut, comme en Picardie, hein, donc dans cette région du nord de la France actuelle et du sud de la Belgique actuelle, où on a des institutions religieuses qui forment des enfants de cœur, mais quand on dit des enfants de cœur, évidemment, il faudrait plutôt dire plus précisément des petits garçons, au chant. C'est aussi très intéressant parce qu'il y a toute une économie, évidemment, autour de ces institutions. Il y a aussi une insertion dans le tissu social qui est très forte, évidemment, et ces maîtrises, ces écoles de chant permettent aussi à des garçons de, comme je l'ai dit tout à l'heure, non seulement de se former à la grammaire, hein, à des rudiments, mais parfois pour des plus tard, ces enfants peuvent aller à l'université. Mmh. Hein, donc c'est vraiment un facteur d'insertion sociale très important.
Un ascenseur social, voilà. On dirait aujourd'hui. Mmh. Alors il y a une voix tellement magnifique, Roland Lassus, qu'elle est très 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 convoitée. Et lorsqu'il est encore jeune, on essaie de l'enlever à plusieurs reprises.
Voilà, il semblerait qu'on ait essayé de l'enlever à plusieurs reprises. Bon, évidemment. Si on considère le personnage et ensuite la réputation qu'aura le personnage, on peut voir ça de manière tout à fait, considérer ça de manière tout à fait romanesque, mais on s'aperçoit qu'il y a d'autres endroits, notamment en France, où il semblerait que le roi de France et parfois, ou d'autres mécènes, aient parfois essayé d'enlever des enfants de cœur à des institutions. Hein, des voix très convoitées. En
fait. Alors, la grande chance pour Roland Lassus, enfin, l'une des grandes chances, une des premières étapes sera dès l'âge de 12 ans. Il est appelé au service du vice-roi de Sicile, qui est Ferdinand Gonzague. L'Italie, c'est important pour un musicien, pour un chanteur à l'époque.
Oui, oui, c'est une place. En fait, en Italie se trouvent des mécènes, de très nombreux mécènes. Tout ça est dû évidemment à la situation politique, géopolitique de cette place. Et donc voilà, évidemment, ça multiplie les possibilités d'engagement. Mais dans le cas de Roland Lassus, c'est tout à fait particulier parce que c'est le vice-roi de Sicile qui passe. Lors d'une campagne militaire, il passe dans le Hainaut et il recrute cette jeune voix qui l'intéresse beaucoup.
Il voyagera à Palerme, à Milan, à Rome, bien sûr. Il va quitter ce prince de Naples et puis arriver avec un autre mécène déjà à l'époque, Giovanni Battista d'Asia della Terza, qui va lui permettre de parfaire ses connaissances, notamment à Rome. On va voir avec vous la suite de ce parcours prestigieux, Roland de Lassus, et puis donc encore une fois ce Hainaut si important pour la musique au 15e et au 16e siècle. Voilà, Wir haben Herr mit unseren Ohren. C'est donc une composition de Roland Lassus, Marie-Alexis Collin, qui fait l'objet aujourd'hui d'une réédition assez prestigieuse.
Alors c'est plus qu'une, ce n'est pas exactement une réédition. En fait, à l'occasion de Mons 2015, depuis 2010, Musique en Wallonie, le très célèbre label Musique en Wallonie, qui s'efforce de mettre en valeur la musique de la région, a décidé de publier, en fait, de retracer la biographie de Lassus à travers ses œuvres. Et donc, c'est 5 CD au total qui vont être publiés. Le 5e va être enregistré justement par Vox Luminis dans quelques semaines pour former finalement un CD. Et donc, dans ces 5 CD, on a toute la vie de Roland de Lassus à travers des pièces qui, dans 90 cas sur 100, sont des pièces qui n'ont pas été enregistrées avant.
Ah,
donc, et c'est par des ensembles européens, donc là aussi c'est un peu en miroir de la carrière de Roland de Lassus, et c'est des disques, tous les disques qui sont pour l'instant parus ont eu des récompenses.
Alors on le disait, la carrière de Roland de Lassus semble devoir se dérouler dans la péninsule italienne, sauf que les événements vont en décider autrement. La maladie, la mort de ses parents le contraignent à rentrer dans son pays natal. Alors là, on a quoi, peut-être une petite doute sur cette période, qu'est-ce qu'il fait? Notamment on le retrouve à Anvers.
Alors on le retrouve à Anvers, mais finalement voilà, après le sud de l'Italie, il est déjà remonté à Rome où il a eu un poste très prestigieux à Saint-Jean-de-Latran. D'ailleurs, on ne sait pas trop si c'est pas aussi des missions diplomatiques qui ont pu aider, mais en tout cas, c'est très certainement ses talents musicaux ne déméritaient pas pour qu'il ait ce poste. En tout cas, ensuite, il remonte vers le nord, semble-t-il, pour voir ses parents avant qu'il meure. et quand il arrive, ils sont morts. Mais entre-temps, il est passé par l'Angleterre. Mais là aussi, on ne sait pas exactement ce qu'il y a fait, si c'était plus pour une mission diplomatique que pour rechercher du travail. Mais en tout cas, il va aller à Anvers. Et Anvers, c'est vraiment the place to be, hein, ouais. À cette époque du XVIe siècle. Anvers, c'est une ville marchande, cosmopolite, où se trouve notamment le cardinal Pernod de Granvelle, hein, très lié à Charles Quint. De nombreux mécènes, notamment, et des mécènes locaux, mais aussi des mécènes étrangers, et puis des imprimeurs de musique qui vont lui offrir sa première publication musicale.
Et puis on le retrouvera, puisqu'il voyage encore, il a la bougeotte, comme chanteur toujours, hein, c'est en tant que chanteur surtout qu'il est très connu à l'époque. On le retrouve en 1556 à la cour de Bavière, il entre au service du duc Albert V. C'est déterminant aussi ça pour sa carrière, hein, cette période
à
la Bavière.
Exactement, parce qu'en fait finalement, c'est probablement, notamment c'est sa publication en vers qui va lui valoir d'être engagé à peu près voilà, au milieu des années 50 par le duc de Bavière. D'abord comme chantre, parce qu'il y a déjà un maître de chapelle, donc il y a déjà quelqu'un qui dirige la chapelle et le personnel musical de la chapelle du duc de Bavière. Et puis, quand le maître de chapelle va partir en retraite, c'est Roland de Lassus qui va lui succéder.
Alors, les plus hautes fonctions, avec les honneurs, les bénéfices évidemment qui vont avec ces honneurs. Et puis, un mariage, il épouse l'une des femmes d'honneur de la duchesse de Bavière. Charles IX, à l'époque, tente aussi de la voir à sa cour, de la tirer en France, mais il refuse. Alors, Roland de Lassus, on l'a dit, c'est l'un des personnages illustres de cette période faste pour les Hainauts au 15e et 16e siècle. Hainaut, place centrale de l'art polyphonique. Comment on peut expliquer ce phénomène ? Pourquoi le Hainaut ?
Ben ça, c'est encore assez difficile à expliquer. Hein. Je pense qu'on n'a pas encore tous les éléments et je ne sais pas si un jour on aura tous les éléments pour comprendre. Mais c'est clair que cette région est vraiment très fertile en musiciens et qu'à l'époque, finalement, c'est vraiment comme un vivier. Un vivier de chantres. Alors je parle de musiciens, on pourrait parler aussi de musiciens qui sont attachés plutôt à la musique savante, hein, parce que tout ce qui est musique orale, évidemment, on a beaucoup moins, on a d'autres sources, d'autres éléments d'information, mais qui sont différents. Mais c'est clair que cette région est très très fertile. On a des institutions religieuses qui, comme je vous l'ai dit, hein, c'est à la fois formation musicale, mais aussi formation en général.
C'est un tissu culturel important, mais qui est traversé surtout par l'état
voilà,
de voie.
Voilà, c'est une zone, le Hainaut est une zone, c'est passionnant à étudier, parce que c'est une zone qui se trouve... on a l'impression que c'est un tissu, autour de ce tissu étendu des points, des axes comme des universités, comme Louvain, Douai, des grandes villes, Paris, Londres. Hein. On voit que c'est traversé de part en part, c'est un véritable carrefour. Ouais, et puis c'est une région très riche.
Hein. Et vous l'avez évoqué, l'importance des diocèses, parce que les communautés religieuses sont quoi, le principal vecteur de la musique savante notamment.
Vecteur de la musique savante, non, on trouve il y a les institutions religieuses, mais aussi il y a des institutions où il y a des édifices religieux plutôt dans des cours. Hein, donc là, on parle d'autre chose, mais c'est surtout pour la formation. C'est vrai que ces institutions religieuses sont primordiales parce que c'est là où on va trouver des maîtrises et des centres de formation.
Alors, il n'y a pas que les espaces religieux, justement, pour apprendre la musique. Où est-ce qu'on apprend, où est-ce qu'on peut entendre la musique ailleurs ?
Pour entendre de la musique, on en entend certainement partout, dans les rues. Hein, mais évidemment, ça, on a perdu beaucoup de ça. On ne connaît pas, on a des témoignages, mais qui sont des témoignages très, très éparses. Et généralement, si jamais on nous dit qu'il y a de la musique, on va pas nous dire quelle musique. Hein. Mais donc, on a des musiciens aussi, des musiciens municipaux, des instrumentistes qui sont... Alors là, c'est plutôt des instrumentistes, non pas des chanteurs, qui sont attachés à la municipalité et qui vont jouer dans différentes occasions. Les occasions les plus prestigieuses, c'est quand même l'entrée d'un prince ou l'entrée d'un haut dignitaire dans une ville. Et là, voilà. Mais à un mariage, on peut vous marier, vous commander des musiciens.
Et c'est pour le peuple, c'est quoi les entrées par exemple, c'est le seul endroit où on peut entendre la musique savante, la grande musique comme on dirait aujourd'hui.
Mais dans les entrées on peut entendre, comme vous dites, peut-être un peu de la musique savante. C'est vraiment très, c'est un terme très difficile et très dangereux. On peut entendre, voilà, on peut entendre de la musique peut-être qu'on entend par les rues. On peut entendre des arrangements de ces musiques. On peut entendre aussi des arrangements de musique qu'on entend par ailleurs ou qu'on chante par ailleurs dans d'autres contextes.
Parce que quand on dit Roland de Lassus, c'est vous qui me l'avez dit, star à l'époque. Est-ce que c'est la star des cours dans lesquels il se déplace ou au sein de d'une large frange la population, il est connu?
Non, c'est la star des cours. Ça peut être voilà, grâce à la aux publications, parce que c'est probablement le compositeur au XVIe siècle qui est le plus diffusé. Il est diffusé largement, mais là il faut mettre une série de doubles guillemets à chaque fois, parce que évidemment tout le monde n'a pas accès à la musique, tout le monde ne sait pas lire la musique, et puis tout le monde n'a pas forcément des musiciens à sa disposition pour jouer. Mais voilà, il bénéficie d'une large diffusion, mais c'est très difficile, hein, on ne peut pas comparer avec la diffusion actuelle.
Roland de Lassus et le Hainaut au XVe et XVIe siècle, une place importante dans la musique. Dessus le marché d'Arras. Voilà encore une composition de Roland de Lassus. Marie-Alexis Collin, quels sont ces thèmes d'inspiration? C'est la vie tous les jours? C'est forcément le divin? Qu'est-ce que c'est?
Alors, ces thèmes d'inspiration, il faut imaginer. C'est vrai que si on peut faire un parallèle entre Roland de Lassus et des périodes plus récentes, on peut penser à Jean-Sébastien Bach. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il est engagé par le duc de Bavière, il va devoir composer de la musique, notamment pour les offices religieux, mais aussi pour le délassement du prince ou du duc, dans le cas de Lassus. Donc il va devoir beaucoup composer. Alors évidemment, les messes, tout ce qui est messe et tout ce qui est musique voilà, religieuse, ce sera plutôt pour la chapelle. Et puis il y a un certain nombre de pièces profanes. Là, on vient d'en entendre une qui est plutôt destinée à ce qu'on appelait autrefois la chambre, hein, donc l'espace privé du mécène et en l'occurrence du duc. Et dans le cadre, ce qui est très intéressant avec Roland de Lassus, c'est que alors les thèmes d'inspiration, c'est difficile à définir, mais ce qui est passionnant, c'est que les textes qu'il va choisir sont des textes très variés. On a des textes italiens, parce que comme c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé, c'est ça aussi qui fait probablement l'intérêt et la richesse de sa musique. C'est comme c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé, il s'est inspiré de plein de répertoires, enfin des répertoires des pays qu'il a traversés. Donc il y a pas mal de... Il met en musique des textes italiens, il met en musique des textes allemands, on en a eu un exemple tout à l'heure, notamment des psaumes, hein. Et il met en musique des textes français et il met en musique du Villon, qui est à l'époque un poète un peu ancien. Et c'est très intéressant parce que ça n'est pas très très fréquent à l'époque.
Et il fusionne les différents types de musique qu'il a écouté dans ce pays.
Il fusionne, exactement. C'est-à-dire qu'il arrive à utiliser la langue qu'on utilise parfois dans un genre particulier, il l'utilise dans un autre. Enfin, c'est vraiment un polyglotte dans tous les sens du terme.
On dit, enfin, j'ai lu en tous les cas, qu'il met, au fond, il pose les bases de l'harmonie moderne. C'est une vérité?
Ça, je ne dirais pas ça. Je dirais qu'il referme. Moi, je dirais, c'est une interprétation. Après, je serais en désaccord avec d'autres personnes. Mais moi, je dirais qu'il referme la porte de la Renaissance. Hein. Après lui, enfin voilà, lui, il termine la Renaissance au point de vue du langage. Hein. Il y a d'autres personnes, il y a des passeurs. Par exemple, Claudio Monteverdi est un passeur. Roland de Lassus, à mon avis, mon humble avis, n'est pas un passeur. Il referme merveilleusement la porte de la Renaissance.
Ça veut dire qu'il ne va pas inspirer d'autres compositeurs à sa suite?
Il inspire toujours, mais ce sera des compositeurs pour la fin du... Ça sera la fin du langage associé à cette période-là.
Alors, on le disait tout à l'heure, donc il y a ces maîtrises qui donnent la chance aux petits garçons, et notamment parfois aux petits garçons de milieux moins privilégiés, d'accéder à ces professions. Alors, lorsqu'on a décroché sa maîtrise, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il faut absolument un mécène pour réussir dans ce métier?
Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est, quand on est un petit garçon, qu'on a la chance de rentrer dans une maîtrise. Voilà, on a la chance de rentrer dans une maîtrise parce qu'on a une belle voix. Alors, parfois, la voix, décline au fil du temps. Et donc, ça n'est plus le cas, il y a plusieurs solutions en fonction des lieux aussi. Dans les endroits bien dotés, bien organisés, parfois, on offre une formation où on a constitué. Il y a des endroits où on constitue un petit pécule d'argent, et quand l'enfant va quitter, il ne va pas poursuivre finalement sa carrière de musicien, il aura un petit pécule pour s'insérer dans la vie. Je trouve que c'est magnifique, ouais. Ça.
C'est comme une bourse, au fond.
C'est comme une bourse, ouais. Voilà. Alors, il y a parfois des bourses, ça dépend des lieux, ça dépend un peu des périodes. Là, je vous décris en général, parce que c'est vrai que pour avoir une histoire de ces institutions et du fonctionnement, parfois, on est obligé de jouer au puzzle. Et donc, il y a des moments où ils peuvent aller à l'université, il y a des moments simplement où ils se réinsèrent dans la vie, on dirait active aujourd'hui, avec un petit pécule. Et puis, pour les autres, ceux qui continuent, c'est-à-dire qu'évidemment, il y a un passage délicat, c'est celui de la mue. Pour ceux qui continuent, soit ils restent sur place, et c'est pas forcément parce qu'ils sont plus mauvais que les autres, mais bon, pour différentes raisons, soit évidemment, ils vont chercher de l'emploi à l'étranger, ou même parfois, comme dans le cas de Laurent de la Sue, c'est là même, c'était avant la mue, ils sont engagés par des mécènes de passage. Et je crois qu'il y a quelques semaines, vous aviez reçu Camilla Cavicchi qui avait expliqué que sur le marché de Bruxelles, c'était presque un trafic de chanteurs.
Il y a vraiment une compétition entre les grandes cours pour s'octroyer les meilleurs chanteurs, au fond. Alors, les grands mécènes de l'époque, il y a les ducs de Bourgogne, par exemple, en connaît d'autres.
Les ducs de Bourgogne, pour le Hainaut, sont particulièrement importants parce qu'à un moment donné, en l'occurrence plus précisément en 1433, le comté de Hainaut intègre la Bourgogne. Et ça veut dire que le comte de Hainaut est tout simplement, je dirais, le duc de Bourgogne. Et donc, le duc de Bourgogne a une politique de mécénat qui est assez bien connue et dans tous les domaines. Et donc, il va aussi, lui, concourir à faire de cette région, finalement, entretenir, cultiver cette excellence dans le domaine de la formation musicale.
On entend ici aussi une composition de Roland de la Sue, ça s'appelle « Bonjour mon cœur ». Il y a les ducs de Croix aussi.
Voilà, les ducs de Croix. Et donc, là aussi, il y a une espèce de dialogue entre les ducs de Croix, la famille de Bourgogne, plus tard Charles Quint, parce que eux-mêmes sont serviteurs, par exemple, je pense à Charles Quint, et donc ils vont entretenir des musiciens, parfois demander à des musiciens de composer de la musique en l'honneur de l'empereur, enfin voilà. Donc c'est
alors vous évoquiez Marie-Alexis Collin, donc on a évoqué les petits garçons, les petites filles alors, elles ont droit à rien, pas de musiciens?
Les petites filles, comme il arrivait souvent à l'époque, elles avaient un peu moins de chance peut-être pour gravir les marches de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'ascenseur social. Il y avait des écoles, alors ça on connaît très peu, notamment pour le Hainaut. Il y avait des écoles, il pouvait y avoir des écoles, il pouvait y avoir des orphelinats, mais alors là il faut être à la fois fille et orpheline, donc c'est-à-dire cumuler deux handicaps à la fois. Mais où là on apprend plutôt à jouer de la musique, mais ça n'est pas, on ne va pas apprendre à une petite fille à devenir personne qui peut devenir professionnelle dans la musique.
On n'a pas d'exemple de l'équivalent d'un Roland de la Sue au féminin.
À l'époque, non. Un peu plus tard, mais pas à l'époque.
Comment on circule la musique à l'époque? L'édition est bien développée?
L'édition, en fait, a commencé en 1501 à Venise. L'édition musicale, évidemment, c'était une grande révolution et c'est évidemment très très utile, très important. Et à Anvers, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des imprimeurs de musique qui sont très 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 importants finalement pour la diffusion de la musique dans toute l'Europe, puisque c'est là que sera diffuser des pièces italiennes, ou seront diffusées des pièces italiennes en très grande quantité.
Est-ce qu'on joue les mêmes morceaux à travers les différentes cours? Est-ce qu'il y a des tubes comme aujourd'hui?
Ah oui, il y a des tubes. Alors, la Sue a contribué à la diffusion d'un tube qui s'appelle Suzanne un jour. Donc, lui, c'est pas lui qui a inventé la chanson, mais il fait partie de la quarantaine de musiciens qui a remanié cette chanson, travaillé cette chanson et qui en a fait un tube. Alors, ce qui est génial avec, enfin ce qui est génial, ce qui est intéressant avec Roland de Lassus, c'est que sa pièce a été traduite en anglais et donc est diffusée en Angleterre.
Avec droit d'auteur à la clé ?
Non. Pas de droit d'auteur.
Quels sont les instruments les plus joués à cette époque ?
Alors, quels sont les instruments les plus joués à cette époque ? On a en gros deux types d'instruments. Des instruments, alors ce qu'on appelle des bas-instruments, parce qu'ils sont assez peu sonores, qu'on va utiliser dans des endroits clos, comme des endroits, la chambre par exemple du prince, sont les viols de gambe, des flûtes, voilà, le luth évidemment. Le luth, c'est vraiment un instrument très populaire, entre guillemets. Et puis, à l'extérieur, par contre, on a des instruments très sonores, des sacboutes, hein, donc l'ancêtre du trombone, des bombardes, enfin voilà, des instruments qui, évidemment, obligatoirement sont beaucoup plus sonores.
Et c'est un orchestre très différent de celui qu'on connaît aujourd'hui.
Oui, alors en fait, c'est des ensembles, hein, donc il y a des ensembles parfois homogènes quand on a les mêmes instruments, parce que les instruments fonctionnent beaucoup par famille. Aujourd'hui aussi, mais c'est moins flagrant. Mais voilà, il n'y a pas de notion d'orchestre. Il n'y a pas, à l'époque, il n'y a pas une musique pour tel type d'instrument en particulier. Ça, ce sera plutôt la musique, la période baroque, la période suivante qui l'apportera.
Roland Lassus n'est pas le seul hein, compositeur provenant du Hainaut à l'époque à être célèbre. Il y en a d'autres.
Non, il y a d'autres compositeurs. Alors évidemment, il a fait un peu de l'ombre à ses compositeurs, mais il y a Pierre de Manchicourt, des compositeurs comme Thomas Créquillon qui a travaillé pour le duc de Croix, un certain nombre de compositeurs qui étaient parfois très célèbres à l'époque et dont on a perdu le nom, les noms aujourd'hui. Quoi. Enfin, on les a oubliés. Et notre travail d'archéologue, c'est d'essayer de les remettre un peu en lumière.
Archéologue de la musique.
Voilà, archéologue de la musique.
Musica Dei Donum Optimi, voilà ce que l'on entend dans le Cobiculum,
voilà,
hein, à Mons.
Exactement.
Expérimentation, dans l'expérience que l'on peut faire tout au long de l'année. Hein. Ce cube, il se trouve où à Mons ?
Alors en fait, il se trouve 17 rue de la Trouille. Donc s'il est dans aux anciens abattoirs, c'est juste à côté de l'exposition Mons Superstar. Et voilà, et ça n'est pas toute l'année, en fait, c'est jusqu'au 12 avril. Alors que voilà, il faut que tout le monde s'y précipite. Ouais. Mais il y a aussi, donc pour comprendre davantage la musique, il y a cette application.
Voilà, application sur Google Play, notamment.
Voilà, Google Play gratuite, hein, je le précise bien.
Il fallait le préciser, en effet. Merci beaucoup, Marie-Alexis Collin.
Je vous remercie pour votre invitation.
De nous avoir fait revivre ces riches heures du Hainaut à travers, notamment Roland de Lassus au 15e et 16e siècle.